Mesdames, Messieurs, merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou par le canal de 52 radios partenaires dans tout le Niger. À Zender, vous écoutez cette émission sur les ondes de la radio Gaskia 89.5 MHz et la radio Choukoura sur le 105.5 MHz. Le forum d'aujourd'hui a pour thème « Comment vulgariser l'utilisation de nos plantes locales pour réduire l'insécurité alimentaire ?» Les événements climatiques causent des baisses de production familiale pourtant déterminantes dans la sécurité alimentaire du Niger. Ils renforcent ainsi la dépendance des ménages à d'autres produits importés sur le marché qui connaissent malheureusement des hausses de prix, ce qui accentue la vulnérabilité des ménages pauvres. Comment renforcer la résilience de la population face aux chocs climatiques? Quelles plantes locales valoriser pour répondre aux besoins alimentaires des populations? Comment promouvoir et mettre en valeur ces plantes? Pour discuter de ces questions, nous avons invité M. Joseph Garvi, directeur de Sahara Sahel Food de Zender. Nous avons également avec nous le capitaine Yacoub Abdrahman de la Direction régionale de l'environnement de Zender. Nous avons également invité la Direction régionale de l'agriculture qui n'a malheureusement pas répondu jusque-là. Leurs représentants auraient dû nous édifier sur beaucoup de questions. Ce n'est que partie remise. Certaines feuilles et plantes, notamment exogènes, sont rentrées dans les habitudes alimentaires de la population grâce à la publicité et la promotion, tout comme plusieurs autres endogènes auraient pu l'être. Capitaine, nous allons commencer par vous. Comment se présente le répertoire floristique de la région de Zender?
Je vous remercie, M. Mustapha Mamansani, de l'occasion que vous nous offrez d'échanger avec vous autour du thème « Comment vulgariser l'utilisation de nos plantes locales pour réduire l'insécurité alimentaire ?» C'est un thème dont l'importance n'est plus à démontrer en ces moments de lutte pour l'affirmation de notre souveraineté et notamment la souveraineté alimentaire. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que les potentialités végétales naturelles, ligneuses et même herbacées de la zone des Zender sont de type steppe arbustive au nord et à l'est de la région. Nous avons la savane arborée et arbustive à l'ouest et au sud de la région. Donc, ce schéma nous offre un gradient de végétation allant du nord au sud, essentiellement lié au gradient pluviométrique et à la nature des sols. Donc, se caractérisant par des formations forestières de type sylvopastoral, composées essentiellement en tout cas de Gyrus sinigalensis, d'Acacia nilotica, de Balanites egyptiaca, de Leptadina pyrotechnica qu'on appelle couramment le Kalimbo, ainsi de suite. Et donc, il y a aussi les formations forestières agro-pastorales, à dominance en tout cas de propis africana qu'on appelle communément Kiria. Donc, entre autres peuplements, n'est-ce pas, on a aussi le peuplement des palmiers d'Oum, Gouriba. Là, ce sont des formations qu'on retrouve généralement dans les bas-fonds et les cuvettes. Le département par excellence est le département de Gouré, qui est en prolongement, si on peut le dire, du bassin du lac Tchad. On a des écosystèmes qui sont similaires à ceux de Goudou-Maria, Maino-Soroa. Donc, au niveau de cette zone-là, on a effectivement des bas-fonds de cuvettes où on a quand même du peuplement important de ces Ifane Tibika qu'on appelle communément Gouriba.
Monsieur Joseph Garvi, quelles sont les plantes locales que vous mettez en valeur au niveau de Sahara Sahel Food? Je rappelle que Sahara Sahel Food, c'est une organisation que vous avez créée il y a quelques années ici à Zender et vous travaillez autour des plantes locales pour mettre en valeur ces plantes.
Merci beaucoup pour cette question et merci beaucoup pour le thème de ce débat et l'invitation d'y participer. Alors nous, à Sahara Sahel Food, nous mettons en valeur les plantes indigènes, surtout les ligneuses. Et donc, ce sont les arbres et les arbustes que nous trouvons spontanément dans nos contrées de la région de Zender. Et comme l'a très bien dit le capitaine, il y a des espèces comme le adoua qui font partie, le goriba, etc. Mais aussi des espèces qui sont peut-être pas tellement dans les formations forestières en tant que telles, mais qui poussent spontanément dans les champs. Sous forme de régénération naturelle, pas toujours assistée. Le plus souvent, c'est non assisté pour le moment, mais nous aimerions bien que ça rentre dans les habitudes de la régénération naturelle assistée. Là, on parle des espèces comme le hanza, le giga. Il y a des espèces comme le tsamia, le tamarinier, le kurna, le zizifus pinacristi. Mais aussi des espèces qui se font très rares de nos jours, comme le curcubi, le gourceumeil, qui sont des différentes espèces de grévia, qui malheureusement se font très rares, mais qui sont aussi très intéressants pour leur potentiel alimentaire.
Quelles sont les plantes locales à forte valeur nutritive parmi les plantes que vous utilisez?
Alors pour les plantes que nous expérimentons, au total, nous transformons 21 espèces indigènes pour le moment. Et là, on n'a pas encore touché à tout ce qu'il y a comme potentiel, parce que nous avons recensé plus d'une quarantaine d'espèces à haute valeur alimentaire qui pourraient être mises en valeur. Je ne vais pas citer toutes les 40 espèces, ça va faire un peu long, mais parmi les plantes phares en termes de qualité nutritive, on note ceux qui sont très riches en protéines, tels que le hanza avec ses graines, tels que le giga, le Meruah crassifolia avec ses feuilles. Pareil pour le tchétchéko, une plante saisonnière spontanée, le Cespania paeciocarpa, le gaseya, le Cleome ginandra, ou encore le godilo, le Crateva adansonii, qui sont tous des espèces à des très hautes teneurs protéiques et une très bonne couverture des acides aminés essentiels. On trouve aussi des produits qui sont très riches en vitamines, qui aussi sont des nutriments qui font souvent carence chez notre population au Niger, tels que le kouka, le danya, qui sont des fruits excellents en contribution de la vitamine C. Si vous mangez régulièrement ces deux produits, vous allez vraiment couvrir sans difficulté vos besoins de vitamine C de l'organisme.
Le kouka et le danya.
Exactement. Donc le kouka, c'est le baobab ou le Adansonia digitata. Le danya, c'est le marula ou le Sclerocaria birea. Vous allez voir aussi des fruits comme le magaria, avec une large gamme de vitamines. Vous y trouverez de la vitamine A, ou plutôt de la provitamine A, c'est-à-dire des éléments qui se transforment en vitamine A une fois digérés par le corps. Vous trouverez de la vitamine C, vous trouverez aussi de la vitamine B. C'est vraiment très large en spectre de vitamines que ça couvre, pour ne pas parler des autres sels minéraux essentiels que ces produits contiennent aussi. Vous trouverez aussi le doroa qui, à l'image du magaria, est un fruit très riche et très vaste dans sa couverture nutritive. Et bien sûr, le gourceumeil, le bidou, le dargaza et le curcubi, les différentes variétés de grévia, qui eux sont très riches à la fois en vitamine C et en fer. Ce qui veut dire qu'ils sont excellents pour les personnes, par exemple, qui sont anémiques et qui cherchent à reconstruire leur quantité de globules rouges dans le sang. Donc, on a vraiment des énormes potentiels quand il s'agit de la nutrition. Et on constate souvent que ces plantes qu'on pensait souvent être juste des choses de la brousse sans trop de valeur, parfois de manière dérogatoire, on les appelle des kayas, des épines et on se dit qu'ils sont gênants, on les défriche pour faire de la place, pour produire de la nourriture. En effet, ils sont eux-mêmes des excellentes sources de nourriture si nous les comprenons et nous les valorisons de la bonne manière.
Alors, y a-t-il précisément une plante que vous avez expérimentée au niveau de Sahara Sahel Food?
Donc, parmi les plantes que nous avons expérimentées, celle où nous avons mis peut-être le plus de travail, le plus d'accent, d'effort, c'est le hanza, le Boschia sénégalensis. Et nous avons choisi ça comme la principale plante que nous avons travaillée dès la création de la société, parce que c'était une plante qui était auparavant stigmatisée par une grande partie de la population nigérienne, par les partenaires au développement et par les médias aussi internationaux comme locaux. Et c'était stigmatisé parce qu'on s'était aliéné de nos propres ressources. On avait passé, je dirais, peut-être 150 ans d'aliénation graduelle avec des influences culturelles qui sont venues de l'extérieur. Il y a eu d'abord l'influence de l'arabisation, après il y a eu l'influence de la colonisation et finalement il y a eu l'influence de la mondialisation. Et quand vous prenez un recul, vous voyez que toutes ces trois influences ont eu un effet similaire, progressif et cumulatif, qui a été celui de considérer que les choses de la brousse, c'était peut-être pour des personnes moins cultivées, moins développées ou moins civilisées. Et donc, on avait tendance à dénigrer leur usage et dire que non, ça, c'est des choses, il faut laisser ça aux animaux. Maintenant, nous allons manger des plantes venues d'ailleurs.
Ça n'a pas de valeur.
Ça n'avait pas de valeur dans la pensée populaire. Et nous sommes dit que non. On comprenait par les usages traditionnels, on a appris comment manger ces plantes. Par les études scientifiques, on a compris que mais la nutrition, elle est très importante, elle est très forte. Donc, on s'est dit que on doit commencer par déstigmatiser ceux qui ont été les plus stigmatisés, ceux qui ont été les plus mal vus. Parce que supposons qu'on commence par travailler sur le margaria. On apprend aux gens de réintroduire, réadopter ça dans les habitudes alimentaires. On nous dirait que oui, c'est bon, c'est pas mal, mais ça a marché parce que le margaria, ça va, c'est assez d'un fruit. Mais ça ne pourrait jamais marcher avec les feuilles de giga ou les graines de Hansa. Donc nous avons dit, on commence là où les gens vont dire que c'est le plus impossible. Si nous arrivons à convaincre qu'en effet, ces produits sont des produits de haute qualité, le message va passer pour toutes nos plantes. Il n'y aura pas un arbre ou une plante indigène pour laquelle on va dire que non, ça, c'est pas digne à l'alimentation humaine. Si elle a la qualité d'être mangée, si elle a la nutrition qu'il faut pour l'organisme, tout le monde comprendra que, en effet, on peut faire des choses similaires avec elle. C'est de s'y mettre au travail. Donc, sur le côté du Hansa, on a beaucoup travaillé pour montrer différentes manières de le préparer, différentes manières de le consommer qui peuvent être adaptées au XXIe siècle. Parce que nos manières de manger aussi ont changé depuis les 100 ans passés. Nos outils même de préparation ont changé. On cuisine aujourd'hui avec du feu de gaz dans les régions urbaines, alors qu'auparavant, ce n'était qu'avec le bois. Et les outils qu'on utilise, etc., c'est un changement constant et un progrès constant. Donc, il faut aussi que les manières de préparer les plats suivent. Et avec ça, on a senti qu'il y a eu beaucoup de progrès, beaucoup de succès dans le sens que la population a vraiment compris la valeur de ces plantes. Beaucoup de gens qui auparavant peut-être étaient très hésitants ou ne voulaient même pas goûter à ces produits sont aujourd'hui des consommateurs réguliers et fiers de ces produits, tant en milieu urbain qu'en milieu rural.
Par rapport au Hansa que vous avez expérimenté, comment ça marche?
Alors, quand on parle des plantes sauvages, il faut souvent passer par une ou quelques étapes de transformation avant qu'il soit facilement consommable. Donc le Hansa, à son état cru, sa graine est très amère. L'amertume qui est dans le Hansa, ce n'est pas quelque chose de si magique ou si particulier que ça. C'est de la glucocaparine, qui est la même molécule qu'on trouve dans les câpres que certains pays méditerranéens valorisent beaucoup et vendent en conserve. Ces conserves, vous pouvez même les trouver à Niamey dans les alimentations. Donc, même en prenant ces câpres dans les boîtes de conserve, vous allez avoir la même molécule que l'amertume du Hansa. Mais la différence, c'est la concentration. Naturellement, la graine de Hansa est extrêmement concentrée en glucocaparine. Et comme c'est une molécule soufrée, c'est-à-dire basée autour de l'atome du soufre, elle prend un goût amer. Maintenant, avant de la manger, il faut diminuer la concentration. De la même manière que si vous aviez un produit qui contenait trop de sel, il vous faudrait diminuer le sel avant de le consommer. Parce qu'on dit souvent que dans la nature, rien ne te tue, rien n'est bon pour toi. Tout est une question du dosage. Toutes les molécules sont utiles d'une manière ou d'une autre, à condition que leur dosage soit approprié à notre organisme. Donc ces molécules, comme la glucocaparine, renforcent par exemple le système immunitaire et aident à lutter contre les infections. Mais évidemment, en forte concentration, ils deviennent nuisibles au corps. Donc, on commence toujours la transformation du Hansa par une étape qu'on appelle le désamérisage. On prend les graines décortiquées de ce fruit et on les met dans des bains d'eau. Et dans ces bains d'eau, on fait des changements de l'eau à des rythmes réguliers et pendant un certain nombre de jours, à peu près 7 jours. Et maintenant, au bout de ce processus, vous avez une graine qui a une très bonne saveur et une très bonne nutrition et qui, en beaucoup de manières, beaucoup d'aspects, ressemble au pois chiche. Donc, à partir de ça, vous pouvez sécher la graine, vous pouvez la moudre, vous pouvez la transformer en semoule ou en farine, tout comme vous pouvez l'utiliser comme des graines entières et elle peut rentrer dans une très grande diversité de recettes et de préparations.
Par rapport au temps que le désamérisage prend, vous avez tenu compte du niveau de développement de la population parce que je me dis qu'il peut y avoir une technique qui va faire le désamérisage en une journée.
Bon, il pourrait l'avoir, mais ça allait soit demander des intrants qui ne sont pas forcément désirables, c'est-à-dire d'associer des produits chimiques. Et ça, nous ne le souhaitons pas. Nous restons toujours dans la logique d'une exploitation naturelle avec des produits naturels. Soit il faudrait beaucoup augmenter la quantité de l'eau utilisée. ce qui serait peut-être gaspilleur en eau.
Oui, justement, le souci, c'est pour l'eau parce que nous sommes à Zender. L'eau, c'est une denrée rare.
Et exactement. Et là, si vous faites un désamérisage judicieux, la consommation d'eau pour avoir un kilo de Hanza désamérisé tourne autour de 20 litres. Et ça, c'est à comparer, par exemple, avec toute culture irriguée qu'on fait ou qu'on puisse faire. C'est en effet une très, très faible quantité d'eau. Et maintenant, la deuxième chose, c'est qu'on peut faire le désamérisage au niveau des sites où l'eau est accessible, où l'eau est disponible. On peut cultiver le Hanza partout, on peut le récolter partout. Mais on peut amener ces graines de Hanza là où l'eau est plus
disponible,
plus
pour,
disponible
traiter.
Pour traiter les grandes quantités. Donc, moi, j'ai toujours dit que c'est une transformation qui s'adapte très bien aux petites et moyennes industries. Et nous, nous avons besoin d'industries au Niger. Nous avons besoin d'employer nos bras valides, notre jeunesse. Nous avons besoin de créer ces activités. Alors, pourquoi pas créer des industries autour de ces aliments pour les rendre des aliments de consommation qui sont facilement accessibles à la population et qui peuvent être consommés à la même vitesse ou la même facilité que les produits importés qui sont devenus populaires de nos jours.
D'accord. Mon capitaine, je reviens à vous. Dans quelle mesure peut-on utiliser ces plantes dans l'alimentation sans créer de préjudice à l'environnement?
Donc, merci en tout cas, monsieur Mustapha. Donc, pour parler des mesures, il faut d'abord des préjudices. Qu'est-ce qui cause les préjudices à l'environnement? C'est surtout une exploitation non rationnelle de ces ressources. C'est que sous-entend une surexploitation et très souvent une mauvaise pratique du prélèvement.
C'est ça.
Les usagers, souvent, quand ils vont, en tout cas, pour prélever, en tout cas, ces plantes-là, que ce soit le feuille, que ce soit les fruits, que ce soit les racines, que ce soit les écorces, souvent, vraiment, si on fait ça, en tout cas, de façon
désintéressée,
sans ça, en tout cas, avoir le souci de durabilité. Il faut faire en sorte que quand on prélève, de préserver la plante pour que demain aussi, elle puisse, en tout cas, fournir ce même service-là. Pour parler des mesures, je pense que les mesures de protection de l'environnement, elles sont nombreuses. C'est d'abord, en tout cas, les lois, le respect des lois. Donc, comme tout autre secteur, le secteur de l'environnement aussi est régi, en tout cas, par des lois qui méritent, en tout cas, d'être respectées. Donc, la première mesure, c'est de respecter, en tout cas, la loi. Une fois que vous voulez, en tout cas, faire un prélèvement au niveau des ressources, au niveau d'une plante, vraiment, il y a les services de l'environnement qui sont là, au niveau des concentrés, pour vous guider sur comment est-ce qu'il faut, en tout cas, aller faire ce prélèvement-là. Donc, vraiment, la première mesure, c'est du respect, c'est de respecter, en tout cas, les lois qui régissent le secteur. La deuxième chose, c'est de préserver l'existant, à travers, en tout cas, des actions de sensibilisation à l'endroit des communautés locales, les autorités, les usagers de ces ressources-là. Une autre mesure aussi, c'est la production des espèces en pépinière. Si vraiment, en tout cas, il y a des espèces qu'on peut produire en pépinière. Tout à l'heure, M. Joseph, en tout cas, il a montré effectivement que toutes ces plantes-là qui sont utilisées, elles ont quand même des valeurs nutritives. Et aussi, il y a beaucoup de plantes qu'on peut effectivement produire en pépinière pour en tout cas essayer de multiplier.
Le Hanza, par exemple, il peut être produit en grande quantité en pépinière.
Le Hanza,
en effet, il se reproduit un peu difficilement en pépinière. Mais par contre, il est très propice à la RNA. Une fois que vous avez 2 ou 3 pieds de Hanza dans une zone, vous allez voir que avec un peu de la complicité des oiseaux, vous allez voir les...
Elle colonise l'espace.
Il colonise même l'espace, effectivement. Et vous pouvez avoir des centaines, des milliers de pieds en régénération. Maintenant, il faut les accompagner, les suivre, faire les lagages comme ça se doit. Et vous allez avoir des très bons pieds de Hanza. Vous pouvez aussi le reproduire en semis direct, mais avec comme contrainte qu'il faut que les semences soient fraîches. Dès que vous cueillez les fruits, dans l'espace de 24 heures ou 48 heures, il faut que vous les ayez mis à terre. Vous ne pouvez pas conserver les semences parce que c'est des graines récalcitrantes. Donc, une fois que vous les stockez, une fois que la graine sèche, elle meurt. Alors que la plupart des graines puissent très bien se sécher et rester vivaces pendant souvent quelques années. Celle du Hanza ne dure que quelques jours. Donc, si on fait une récolte rapide et un ensemencement rapide, ça peut très bien se reproduire par semi-direct aussi. Une fois présent sur un site, vous attendez juste, vous accompagnez juste la nature un peu et de lui-même, il va se multiplier dans les environs.
Alors, dans quelle mesure peut-on utiliser ces plantes dans l'alimentation sans créer de préjudice à l'environnement?
Avant de donner quelques mesures, je vais d'abord en tout cas me présenter sur la cause du préjudice, en tout cas de l'utilisation de ces plantes-là sur l'environnement. Et la première chose, c'est d'abord une exploitation rationnelle des ressources, qui sous-entend en tout cas la surexploitation et souvent, très souvent, des mauvaises pratiques en tout cas du prélèvement. Donc les usagers, souvent, quand ils partent en tout cas pour, au niveau des CDD, en tout cas pour cueillir, que ce soit les feuilles, que ce soit l'écorce ou toute autre partie des plantes dont ils ont besoin, vraiment, n'ont pas ces soucis de durabilité. Souvent, on fait en tout cas des coupes rases et tout ce qui s'ensuit pour que l'espèce en tout cas ne puisse pas exister. Donc vraiment, c'est la première des choses, vraiment, je dirais. Pour parler maintenant des mesures, je pense qu'il faut d'abord parler du respect des lois. Donc le secteur de l'environnement, comme tout autre secteur, est régi en tout cas par des lois. Et ces lois-là, en tout cas, elles doivent en tout cas être respectées pour d'avoir préservé l'environnement. Nous avons en tout cas des services déconcentrés jusqu'au niveau commun. On a quand même des services qui sont là, qui veillent effectivement au respect de ces lois. Donc les usagers n'ont certainement pas de problème. Il suffit juste de se rendre auprès de ces services-là. Ce sont des services en tout cas de l'État qui sont là pour la population, qui sont là à accompagner en tout cas la population à faire une bonne utilisation des ressources naturelles dont nous disposons. Autre chose, en tout cas, c'est de préserver en tout cas l'existant à travers des actions de sensibilisation à l'endroit des communautés. Vous avez les autorités, vous avez les divers usagers de ces ressources-là. Une autre mesure, c'est la production en tout cas des espèces en pépinière. Faire aussi des plantations dans les champs et dans les endroits appropriés. Bon nombre de ces plantes-là locales que nous avons, elles peuvent effectivement être entretenues soit à travers la RNA ou bien en tout cas à travers le semis direct, comme vient de le dire Monsieur Joseph.
Monsieur Joseph, quels sont les aliments qu'on peut préparer à partir de ces plantes? Vous avez tout un répertoire d'aliments que vous préparez au niveau du Sahara Sahel Food.
Bon, je vais peut-être un peu choquer certains auditeurs si je le dis, mais sincèrement, on peut faire une cuisine complète, même à base de nos arbres uniquement. On peut pratiquement tout faire. On a des pseudo-céréales comme le hanza qui permettent d'avoir des farines, des couscous, etc. Donc, on peut faire le touwo, on peut faire des dambous, on peut faire des gâteaux, on peut faire des bouillies, etc. Maintenant, quand vous associez les amandes de nos arbres, vous associez les feuilles de légumes de nos plantes, etc., en réalité, vous pouvez presque tout faire. Vous pouvez faire les copteaux, bien sûr, mais vous pouvez aussi faire des soupes, des plats de résistance diverses. Vous pouvez aussi faire des spécialités, comme par exemple le hummus. Le hummus de Hanza, c'est un hors-d'œuvre qui est très délicieux, qui peut se faire en associant les graines de Hanza avec l'huile de Adwa et les feuilles du baboul, le Salvadora persica. Vous pouvez faire d'autres spécialités, comme par exemple le lait végétal extrait de l'amande de Adwa, qui, selon beaucoup de personnes qui le dégustent, et là où on parle d'experts internationaux qui viennent parfois visiter le Niger, ils disent que ce lait n'en veut à rien aux laits végétaux qui sont vendus sur le marché international, les laits d'amande et les laits de soja, etc. En réalité, on peut faire du lait végétal de haute qualité qui pourrait probablement être compétitif sur le marché international avec une mise en valeur et un accompagnement correct. Après, il y a les huiles alimentaires que vous pouvez faire de très haute qualité qui sont riches en acides gras insaturés, comme les huiles de Adwa, de Dania, de Gawasa ou du Kuka, le Baobab. Et vous avez les épices, etc. Donc, quand vous associez tout ça, vous avez pratiquement une cuisine complète. On a même fait des desserts avec ces plantes. Par exemple, on a fait du mousse au chocolat à la base d'un lait végétal extrait de la graine du Hanza. Et ça a très bien marché aussi. Les crèmes glacées avec le lait végétal du Adwa, ça marche très bien aussi. Donc, il y a vraiment une diversité qui est étonnante et impressionnante. Et bien sûr, côté des boissons et des tisanes, ils sont légion aussi. Donc, je pense que surtout, c'est la créativité et c'est d'avoir accès aux ressources. C'est-à-dire, il faut avoir les ingrédients sous la main pour pouvoir cuisiner avec eux. C'est ça le plus grand obstacle à surmonter, je pense.
Est-ce que la population locale connaît toutes ces préparations que vous faites à partir de ces plantes locales-là?
Il faut savoir que la plupart de ces choses sont inspirées de nos traditions culinaires ancestrales. Mais souvent, vous allez voir que c'était réparti dans l'espace et selon les ethnies. Donc, vous aviez des préparations qui étaient la spécialité de telle ethnie dans telle zone, une autre qui était la spécialité d'une autre. Donc, il y a toute cette diversité de préparations qu'on peut faire à la base des produits de ces plantes, de ces produits forestiers. Et surtout, quand vous avez pris le recul et vous avez regroupé les savoirs de différentes zones et de différentes ethnies, vous les mettez ensemble, vous voyez que ça fait un complet vraiment impressionnant, comme toute une palette. Et vous voyez aussi que vous pouvez, à partir de ça, combiner, faire des nouvelles créations dont vous ne vous rendiez pas compte a priori. Et aussi, grâce à peut-être aussi à des outils de transformation un peu plus modernes, vous pouvez aussi aller plus loin que ce que pouvaient faire nos ancêtres. Et donc, dans ces recettes et ces créations qu'on fait, nous regardons aussi celles qui sont les plus propices pour être effectuées en milieu rural. Et nous retournons encore chez les communautés, leur enseigner comment préparer ces choses pour qu'eux aussi puissent bénéficier et s'enrichir
de la découverte.
De ces découvertes, exactement.
Mon capitaine, il a parlé d'une diversité de plantes et surtout le Hansa là, que nous sommes en train de voir. Alors, comment est-ce qu'on peut préserver aujourd'hui ces plantes-là?
Donc, merci, M. Mustapha. La préservation de ce que nous avons comme espèce végétale de façon générale, elle va passer en tout cas par la participation de tout le monde, de tous les acteurs, surtout au niveau communautaire. Donc cela passe nécessairement par la sensibilisation, en tout cas en grande masse, pour toucher en tout cas l'ensemble des acteurs, surtout au niveau local, les responsabiliser, les montrer en tout cas l'importance de ces ressources-là et aussi leur utilité, n'est-ce pas, pour que ces communautés-là, en tout cas, participent à leur préservation. Qu'elles sentent d'abord que c'est leur propre ressource, n'est-ce pas? Il faut qu'elles s'approprient ces ressources-là, de par les biens, les services, en tout cas, qu'ils attirent à partir de ces ressources-là. Autre chose, c'est vraiment les actions de restauration. Les actions de restauration, n'est-ce pas, participent également à préserver, en tout cas, ce que nous avons comme ressources, à travers en tout cas leur production d'abord, n'est-ce pas, en pépinière, à travers des actions de plantation, à travers la régénération naturelle à ce qu'est la RNA. La RNA aussi, c'est une activité vraiment qui est porteuse, qui a en tout cas montré ses preuves, n'est-ce pas, au niveau des communautés. En tout cas, toutes les communautés qui l'ont adoptée ont vu l'importance en tout cas de la RNA. Donc, c'est vraiment amener ces communautés à faire plus, n'est-ce pas, de la RNA, à travers, en tout cas, les sensibilisant, pour qu'ils vraiment, elles participent à, elles aussi à la préservation de ces ressources-là. Quand on voit, en tout cas, l'importance de ces ressources-là, les services qu'elles fournissent aux communautés au quotidien.
Monsieur Joseph, l'avant-dernière question pour vous. Est-ce qu'il est possible de combler le déficit alimentaire avec l'utilisation des feuilles et plantes disponibles aujourd'hui?
Tout en prenant une réserve que peut-être que les études n'ont pas été assez profondes pour quantifier de manière exacte, moi je dirais qu'avec les données préliminaires qui existent dans le domaine, la réponse est oui. On a un énorme potentiel, on a énormément de pieds de ces plantes qui parfois poussent dans les champs et autres sous forme de souches, et qui peuvent se développer rapidement, comme le capitaine l'a dit, avec un accompagnement en RNA et autres. Et on constate une productivité élevée sur ces plantes. Par exemple, le Hansa, par espace occupé, produit à peu près deux fois la quantité de graines séchées que ce que fait le mil ou le sorgho, c'est-à-dire nos cultures pluviales céréalières. Et nous devons nous rappeler que la majorité de notre espace restera dans les temps à venir sous culture pluviale. Parce que même s'il y a des initiatives d'irrigation et même parfois de grandes irrigations, la plupart de la terre nigérienne ne pourra pas être mise sous irrigation. Donc, elle devra rester sous culture pluviale. Et dans ces zones, il n'y a pas mieux que nos arbres indigènes pour rehausser la productivité. D'un côté, ils augmentent la fertilité du sol et améliorent donc le rendement des céréales, mais eux directement produisent même plus que les céréales. Donc, en leur donnant assez d'espace, ils peuvent faire des contributions très conséquentes Et ils sont riches en calories et ils sont riches en protéines. Et surtout la protéine, c'est un des nutriments, des macronutriments dont il nous faut fortement augmenter la disponibilité au Niger. Ils sont aussi riches, selon les types, en lipides et en lipides de bonne qualité. Donc moi, je pense que vraiment, c'est peut-être notre tout meilleur outil pour combler le déficit alimentaire.
On a tout un répertoire de feuilles, par exemple, disponible à l'image du moringa, qui est une feuille malheureusement exogène, mais ici, sur notre sol, dans notre environnement, nous avons d'autres feuilles que nous pouvons mettre valablement en valeur qui peuvent concurrencer les feuilles du moringa et autres.
Ils sont même légion. Vous pouvez manger très bien les feuilles de yadia, vous pouvez manger très bien les feuilles du gamji, les feuilles du dania, les feuilles du giga, et les feuilles du bagaï, et les feuilles de zouré, et ainsi de suite. On a une très grande gamme de feuilles délicieuses venant de nos plantes indigènes.
Mais compte tenu de la méconnaissance de leur valeur, aujourd'hui, elles sont laissées en pâture.
Oui, et ils le sont, et c'est surtout comme ce qu'on disait tout à l'heure, ce problème de déstigmatisation. On s'est un peu déraciné de nos cultures ancestrales, parce que toutes ces plantes faisaient partie de notre alimentation ancestrale. Depuis des siècles et voire peut-être même des millénaires, là où les fouilles archéologiques le permettent, ils nous montrent que ces choses faisaient partie de l'alimentation de nos aïeux il y a longtemps de cela. Donc, moi je pense que c'est surtout un travail de notre mentalité, de notre psychologie, de revisiter ces plantes sous un autre angle, de nous rappeler ce qu'ils sont, de nous rappeler que notre identité culturelle même, on la retrouve en partie dedans. Et de nous retrouver cette fierté de dire que mais ça, ce sont les nôtres, ce sont nos spécialités. Et ici au Niger, on peut produire des plats, des mets qui sont spéciaux au Niger, qui ne sont pas juste une copie plus ou moins bien ou mal faite de ce qu'on mange ailleurs. Vous rentrez dans les restaurants au Niger, on vous sert toujours poulet frites. Mais est-ce que nous sommes ceux qui font les meilleurs poulet frites au monde? Pas forcément. Mais nous pouvons faire des spécialités qui sont nigériennes, qui vont faire que les gens vont venir juste pour goûter les spécialités du Niger. Ils vont dire, mais quand je suis au Niger, il faut que je mange ce qu'on ne trouve pas ailleurs.
Apparemment, nous sommes meilleurs dans l'adaptation des plantes exogènes. La pomme de terre aujourd'hui, elle est presque prisée partout, mais malheureusement, ce n'est pas une plante de chez nous.
Et c'est ça qui est un peu malheureux. Nous avons cette complexe qu'on a pendant toutes ces années pensé que ce qui vient d'ailleurs, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est cultivé. Mais tout ce qui vient d'ailleurs, par exemple, vous prenez un fruit comme la pomme. Mais la pomme, chez mes ancêtres qui étaient donc de la Scandinavie, c'est juste un fruit qui pousse sauvagement entre les rochers. Et mes amis d'enfance là-bas, ils se lançaient des pommes en les écrasant parce que qu'est-ce qu'on allait faire avec ces pommes? Ça ne se mangeait pas, c'était pas intéressant. Mais nous, on se dit que c'est le meilleur fruit. Non, c'est juste un fruit qui étaient adaptés à leur zone en climat tempéré. Et nous avons des fruits qui sont adaptés à notre zone en climat aride sahélien. Et c'est de savoir capitaliser sur ce patrimoine. C'est ça qui est intéressant.
Et même vendre ça ailleurs. Mon capitaine, la dernière question pour vous. Comment est-ce que nous allons promouvoir l'utilisation de ces plantes locales dans les habitudes alimentaires de nos populations et même amener ça ailleurs?
Merci en tout cas, monsieur Mustapha. Pour promouvoir cette utilisation, on peut prendre l'exemple de la société Sahara Food. C'est un bel exemple qu'on peut citer en termes de promotion, en tout cas de la valorisation de nos plantes locales.
C'est clair.
Quand on voit tous les efforts qui sont en train de fournir de la transformation, que ce soit du tamar, du syndicat, qu'on appelle communément Samia, les balanites, les Borega, que sais-je encore. C'est un bel exemple, comme je dirais, en tout cas, du promotion. Donc, c'est vraiment à encourager peut-être cette société-là à faire plus, n'est-ce pas, pour en tout cas promouvoir ces
et même amener dans les autres régions, pourquoi pas.
Mais bien sûr, parce que moi, je pense que, je le disais tout à l'heure, que c'est vraiment un bel exemple. Je ne sais pas si en dehors, en tout cas, des Zender, peut-être la ville des Zender, si ces produits-là sont en tout cas exporter vers d'autres régions. Mais je ne parle même pas de l'intégration de nos frontières. Est-ce qu'en dehors même de la ville des Inters, ces produits-là, en tout cas, sont des sarafous,
dans les autres régions, on ne trouve pas des initiatives comme ça qui valorisent nos plantes locales?
Je ne dirais pas ça, mais ce que je connais, en tout cas, en termes d'exemple, je le dis, vraiment, c'est la société Sarafood. C'est là où j'ai découvert effectivement cette possibilité-là de transformation de ce que nous avons comme produit, en tout cas, comme plante locale. Ça peut exister dans d'autres régions, mais en tout cas, à ce qui me concerne, vraiment, c'est l'exemple que j'ai vu plus palpable et que j'encourage. Autre chose, il faut peut-être continuer dans la recherche. Pour faire cette promotion-là, il faut montrer vraiment la valeur nutritive et les vertus, en tout cas, de ces plantes-là. Il faut que les communautés connaissent ces valeurs. Mais pour faire ça, il faut faire des recherches poussées pour montrer, en tout cas, à quel point ces plantes-là ont des valeurs et elles peuvent effectivement contribuer à l'alimentation et à la sécurité alimentaire. Et les institutions de recherche, je pense que là aussi, l'État doit faire beaucoup de efforts. L'État peut accompagner, n'est-ce pas, les institutions de recherche. Pourquoi pas, déjà ceux qui sont en tout cas dans le système, quand on parle d'exemple de la société Sahara, elle peut effectivement être appuyée dans ce sens. Il y a des instituts de recherche, des universités qui peuvent aussi pousser des recherches pour voir, en tout cas pour valoriser en tout cas nos plantes locales là. Elles peuvent bel et bien contribuer en tout cas à l'autosuffisance alimentaire. Déjà, c'est un défi en tout cas du gouvernement. À l'heure du temps, là où nous sommes, je pense que la sécurité alimentaire, quand même, c'est un des défis qui tient beaucoup en tout cas à nos autorités. Et il y a quand même une certaine prise de conscience même au niveau des populations.
Je me rappelle dans les années 80, au temps de Kontié, il a fait la promotion du haricot qui était produit, surtout destiné à l'exploitation. Et puis les gens ont commencé à utiliser ça. Donc je pense que les hommes politiques peuvent faire quelque chose.
Les hommes politiques, je dirais que les grands opérateurs économiques peuvent appuyer, peuvent aller aussi dans ce sens-là. Parce que vous avez parlé de l'exemple, en tout cas, de la période de Kontié. Vous avez donné l'exemple du haricot, qui a quand même cette valeur-là, très, très, très nutritive. En dehors du haricot, il y a bien d'autres, en tout cas, produits qu'on peut valoriser. Donc, vraiment, c'est vraiment de ce contexte consommant local-là, on doit lui donner beaucoup plus du contenu. On doit lui donner beaucoup plus du contenu. Vraiment pas uniquement importer ce qui nous vient d'ailleurs, mais localement, si on se concentre sur ce que nous avons, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. On ne va pas peut-être arrêter d'importer, mais quand même, je pense qu'ici, on se concentre en tout cas avec ce que la nature nous donne comme ressources au niveau local. On peut vraiment faire beaucoup de choses.
Merci. Monsieur Joseph, dernière question. Comment promouvoir l'utilisation des plantes locales dans les habitudes alimentaires des populations?
Alors, ça commence par la sensibilisation culturelle. Ça commence par la vision que nous avons de ces plantes. De les montrer sous un angle positif, de nous rappeler, comme l'a dit très bien le capitaine, leurs vertus, leurs importances pour la santé, mais aussi leur histoire. La tradition, notre lien entre nos ancêtres, la nature, l'environnement, ces plantes et nous qui sommes là aujourd'hui. Parce que ces liens sont palpables et réels. Et plusieurs d'entre eux ont même des très belles histoires qui même sont émerveillantes d'écouter. Dans la tradition des Kanuri, on disait auparavant un proverbe que celui qui possède un arbre de Adwa possède l'équivalent d'une vache laitière. Et je ne sais pas si c'est une prophétie que nos parents là-bas faisaient, mais aujourd'hui on arrive à faire du lait végétal à partir de la menthe du Adwa. Donc ce n'est même pas au sens métaphorique, c'est pratiquement au sens réel que ça se fait aujourd'hui. Et on a plein de ces belles histoires. On a plein de nos noms de localités qui sont dérivés de ces plantes, la ville de Magaria étant la plus célèbre. Mais on a aussi on a Chihanza juste à côté ici qui nous rappelle que l'histoire de Zinder est intimement liée à la consommation du Hanza. Et ainsi de suite. Et la deuxième chose, c'est que non seulement la culture, comment aimer ces plantes, mais aussi il nous faut une éducation culinaire et nutritive. Et ça, il le faut pour les urbains comme pour les ruraux. Que contiennent ces plantes? Quels sont les avantages quand nous les mangeons? Et que devons-nous combiner pour retrouver une meilleure santé? On sait qu'au Niger, 40% des enfants sont chroniquement malnutris. Et pourtant, on sait que ces plantes peuvent répondre à ce problème. On sait que 50% des femmes en âge de procréation sont anémiques. Et pourtant, ces plantes peuvent répondre à ce problème. Donc, en éduquant les gens, en leur donnant les informations sur quoi et comment, ils peuvent mieux intégrer ça dans leurs habitudes et résoudre le problème. Donc, l'éducation est très importante d'intégrer l'information sur ces plantes à l'éducation scolaire, mais aussi dans les campagnes de sensibilisation et d'éducation que font les services techniques, que font les partenaires au développement. Ça, c'est très important aussi. Après, il faut que le produit soit mis disponible. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a certains produits, on ne peut pas facilement les consommer directement. Et vous ne pouvez pas demander à un consommateur du 21e siècle d'aller prendre du Hanza amer et le préparer une semaine chez lui. Non, il faut qu'il y ait des unités de transformation, des petites et moyennes entreprises ou des groupements de femmes qui travaillent ça, qui préparent ça et qui le rendent disponible sur le marché. Et là, il faut un peu accompagner, stimuler ces unités pour qu'ils se développent, ils se propagent, qu'ils deviennent assez nombreux pour prendre en charge la demande du pays. Mais quand on les rend accessibles dans un état hygiénique, dans un état assez facile ou assez propice à la consommation, moi je pense que le dernier point, c'est le prix. Et le prix, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? C'est par les volumes, c'est-à-dire les économies d'échelle. Et surtout du côté de la transformation, le coût de la transformation diminue fortement au fur et à mesure que les volumes augmentent. Donc là aussi, on peut les rendre plus accessibles, ils deviennent plus compétitifs par rapport aux produits importés. D'ailleurs, nous sommes nombreux à nous plaindre de la difficulté de la flambée des prix de nos aliments importés qui rendent la vie difficile à beaucoup de citadins ces derniers mois. Mais il y a un côté positif dans tout ça, et c'est qu'ils ont permis de rendre les produits locaux plus compétitifs. Et un peu changer la balance qui fait qu'il est plus attirant aujourd'hui pour le consommateur de se payer un produit à base de la production locale par rapport à un produit importé. Donc je pense que aussi sur la fiscalité, la politique douanière, tout ça, l'État peut jouer un rôle très important pour peut-être un peu diminuer les charges fiscales qu'elle met sur les productions locales. Et si les prix commenceront à baisser à nouveau, un petit peu augmenter les taxes sur les produits importés, pas pour nous faire souffrir, mais pour nous orienter vers la consommation locale et stimuler la production. Parce que quand les cultivateurs familiaux trouvent des revenus, ils s'engagent dans l'activité. Et quand ils trouvent des revenus, nous tous, nous nous portons mieux parce qu'il y a moins de migrants, il y a moins d'exode rural, il y a moins de difficultés sociales qui s'en suivent. Plus les gens, nos frères et sœurs sont capables de se prendre en charge, plus il y aura la quiétude sociale, il y aura la cohésion sociale et tout ce que nous désirons pour le bien-être.
Merci, Monsieur Joseph. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons retenir que du point de vue floristique, la région des Andes est divisée entre la steppe herbeuse au nord et la steppe arborée au sud. Deux zones qui sont différenciées surtout en fonction de la hauteur de pluie qui tombe. Sahara Sahel Food traite autour de 21 espèces indigènes qui sont à forte valeur nutritive telles que le Hanza, le Tseko, le Magaria, le Kuka, le Dania, etc. Le Hanza, qui est une plante expérimentée au niveau du Sahara Sahel Food, est un arbre très nutritif et disponible dans la région de Zinder. Pour utiliser les plantes sans causer de préjudice à l'environnement, il faut faire une exploitation rationnelle, respecter surtout la loi. Les plantes peuvent être protégées à travers la régénération naturelle assistée. Plusieurs plats sont disponibles à partir de ces plantes locales. On peut donc combler véritablement le déficit alimentaire chronique qui se vit actuellement au Niger. Les entreprises qui font la promotion de ces plantes doivent être promues par l'État. Il faut aussi sensibiliser la population à l'utilisation de ces plantes. Il faut aussi donc une éducation culinaire et nutritive. Nous étions avec Monsieur Joseph Garvi, directeur de Sahara Sahel Food Zender, capitaine Yacouba Abdrahman de la Direction régionale de l'environnement. Nous avions également invité la Direction régionale de l'agriculture, mais leur représentant n'a pas pu répondre à cette invitation. Merci et au revoir.